Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire du pédalo ce soir, le 28 juin prochain, demain Angers, union de 10 organisations politiques de gauche organise une primaire. L'objectif, choisir un ou une candidate unique en vue des élections municipales de 2026. Parmi les organisations, on retrouve les Écolos, Génération.S, Angers Coopérative, le PS ou encore l'Après. Tous participent à cette primaire. Les grands absents, la France Insoumise qui a décidé de faire ça en solitaire. Alors à quoi ça sert une primaire? À quoi elle sert cette primaire-là? Où voter? Quel mode de scrutin? Eh bien, on en parle avec Rachel Capron et Pierre Ruet. Ce sera aussi l'occasion, ce pédalo, d'écouter la dernière chronique de la saison de Philippe qui nous parlera de la planification citoyenne écologique. On aura aussi le droit à un petit bonbon sonore, une fiction réalisée par des enfants de grande section et de CP de l'école du Latan à Breil. Attention, on touche du doigt toute la poésie enfantine dont il est possible en ce monde, c'est absolument charmant. Alors voilà, vous savez tout, ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Salut Philippe.
Salut Hugo.
Tu vas bien?
Très bien, et toi?
Ben bien, mais j'ai le cœur tout gros, c'est ta dernière de la saison.
Eh oui.
Et bon, tu voulais quand même, à défaut de me faire pleurer, terminer sur une note positive.
Oui. Je veux rebondir sur ma conclusion de la semaine dernière, sur ce qui me semble être la cause de tous nos maux. Aujourd'hui, le premier critère de toutes les politiques publiques et de tous les investissements privés est combien ça coûte et combien ça rapporte à court terme. J'ai déjà dit que les changements dans une société peuvent venir du culturel, le comportement des individus, ou du politique, la réglementation. Les petits pas que j'ai illustrés avec la consommation d'eau pour se laver et les transports sur de courtes distances relèvent du culturel. Ils sont indispensables, mais évidemment pas suffisants. Il faut que le politique change.
Et qu'est-ce qu'il devrait faire selon toi?
Ce qui devrait être une évidence. Faire des choix en fonction d'une logique comptable.
Mais c'est un peu à rebours de tout ce que tu nous as dit et sur lequel tu as insisté toute la saison, notamment la semaine dernière.
Ouais, je dis ça pour provoquer, bien sûr. Mais une logique comptable pourrait donner de bons résultats à une condition fondamentale, raisonner à long terme et pas à court terme. Toutes les études montrent que prévenir un problème, qu'il s'agisse de dégâts environnementaux, d'accidents du travail, de délinquance, de santé publique, coûte moins cher que de traiter le problème quand il est apparu. Un euro investi dans la prévention en économise 2, 3, 10 ou plus dans le traitement des problèmes. Pour ne prendre qu'un seul exemple, le choix de favoriser l'activité économique au détriment de la lutte contre les changements climatiques va coûter à terme des dizaines de milliers de milliards à l'économie mondiale.
En fait, ce qui est difficile, c'est que c'est sans doute difficile aussi de prévoir les coûts futurs.
C'est vrai. Alors, oublions la logique comptable, même à long terme, et faisons des choix en fonction des besoins de la société. Je rappelle au passage que l'étymologie du mot « économie » est l'administration d'un foyer. C'est la science de l'allocation des ressources. Avec des ressources en quantité limitée, c'est le cas pour un foyer, pour un État, mais aussi pour la planète dans sa globalité, comment un groupe doit-il les utiliser pour répondre aux besoins prioritaires de ses membres?
Et ça pose la question de ce que sont les besoins prioritaires, en fait.
Oui, et cette question est à la fois simple et terriblement complexe. Simple parce que les premières réponses sont évidentes, l'accès à la nourriture, aux soins, à un logement. Et en même temps terriblement complexe parce que le monde moderne a généré des besoins à la fois artificiels, parce que créés par un modèle de développement qui n'a rien de naturel, et en même temps bien réel parce qu'il est devenu très difficile de s'en passer. Tout ce qui touche au numérique, la voiture, etc.
Et en fait, comment est-ce qu'on définit ces besoins alors?
Eh bien, je propose une convention citoyenne. 1000 citoyens tirés au sort, donc représentatifs de la population, réunis pendant un an. Des experts de tous les domaines, scientifiques, sociologues, statisticiens, économistes, philosophes même, leur apportent de la matière pour alimenter leurs réflexions. Comme il n'y a jamais une vérité mais plusieurs, tous les sujets font l'objet de débats contradictoires, avec des intervenants ayant des opinions divergentes. Et le résultat de leurs réflexions est mis à disposition de l'ensemble de la population, qui a la possibilité de réagir, de contribuer. Et quand ce travail a été fait, les choix et les orientations des citoyens deviennent ceux du gouvernement, qui doit les mettre en œuvre à travers une vraie planification écologique.
Mais bon, les conventions citoyennes, on en a déjà vu et revu. C'est un peu utopiste ton propos là.
C'est vrai, mais je te rappelle que le suffrage universel, le droit à une retraite et la sécurité sociale ont aussi été des utopies. La République aussi a été une utopie. Je vais te dire le fond de ma pensée. Les politiques ne sont pas formatés pour écouter les citoyens, mais ils se rendent compte qu'ils ne vont pas avoir le choix. Comme tu le rappelles, il y a déjà eu deux conventions citoyennes. Et même si le gouvernement a très peu tenu compte de la première, sur le climat, c'est une étape. Le grand débat et les cahiers de doléances sont tombés dans les oubliettes, mais des voix se lèvent pour les en faire sortir.
Bon, et en tout cas, il faut y croire alors. C'est ça que tu nous dis.
Oui.
Ton chiffre de la semaine, Philippe, pour conclure ?
Eh ben, pour rester sur une note positive, la température de l'eau sur la façade atlantique, là où je vais bientôt me rendre, est déjà de 19 degrés. Et ça, je ne veux pas bouder mon plaisir, même si c'est en partie lié au réchauffement climatique.
Ah, la chance. Donc tu vas te baigner là ?
Pas tout de suite, mais d'ici une quinzaine de jours.
Ah, ouais. La chance, on pensera bien à toi depuis les studios de Radio Campus Angers. Philippe, un immense merci pour cette dernière chronique de la saison. Ça a été un plaisir de t'écouter tous ces mardis tout au long de cette année 2024-2025. Donc merci beaucoup et au plaisir de te réentendre la saison prochaine sur les ondes de Campus.
Eh ben, c'était un plaisir. À demain. À l'année, demain. À la rentrée. Oh là. C'est l'émotion.
C'est l'émotion. Mais ça tombe bien que tu dises demain parce que on va parler de demain Angers.
Eh ben, connais demain, voilà, en fait, voilà, j'ai dû avoir une intuition.
C'est ça. D'ailleurs, on en profite puisqu'on est avec Rachel Capron et Pierre Ruet qui nous ont rejoints dans le studio. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes tous les deux au cœur de Demain Angers qui organise la primaire de la gauche à Angers. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette chronique de Philippe ? Est-ce que c'est une utopie de convoquer une troisième convention citoyenne ?
Je vais peut-être laisser la parole à Pierre, qui fait partie du collège citoyen de l'association Demain Angers.
Oui, alors je me retrouve complètement dans ce que vous aviez dit par rapport à la place des citoyens et la place laissée par les partis politiques traditionnels. C'est d'ailleurs la force en fait de Demain Angers, de rassembler des partis politiques, mais également plusieurs mouvements citoyens, par exemple la coopérative dont je fais partie, mais également trois autres. Et je pense que ce sera une thématique qui sera importante dans la campagne qui va arriver. Quelle place on laisse aux citoyens sur les choix budgétaires, mais également sur la co-construction de projets qui les impactent à long terme. J'étais également tout à fait d'accord avec le choix comptable qu'on doit faire, combien ça coûtera plus tard de ne rien faire. Et je crois qu'on oublie trop souvent de réfléchir sous ce prisme-là. Donc la place citoyenne est importante et à Demain Angers, justement, on veut faire en sorte de mobiliser cette société civile, comme on l'appelle, pour que toutes les dynamiques qui ont envie de participer à l'avenir de leur ville s'engagent dans les municipales.
Eh bien, de Demain Angers, on en parle juste après Too Good de Brandon, qui est dans la playlist du mois de Radio Campus Angers. À tout de suite. Restez bien avec nous.
Turn blue and the sun's turn gray. I can't can't stop thinking of you. But God, I can't explain it. Was I such a fool to put my trust in you? Look what you put me through. You're playing God with these games. I keep running, running back and forth. I guess I'm running out of luck. Oh, you're gone now, you're gone away. Away, I guess I'm crazy for thinking we could be something.
Le 28 juin, c'est jour de vote pour la primaire de la gauche à Angers. 10 organisations politiques, des communistes aux écolos, du PS à Angers Coopérative. 11 organisations politiques. Ah oui, 11 ? Bon, on va en parler, on va les préciser jusqu'alors. Toutes ces organisations se sont rassemblées autour de Demain Angers, chargées d'organiser ce scrutin qui oppose 5 candidats que tout rassemble. C'est bien là la particularité de cette primaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette primaire ? Pourquoi on vote ? Comment on vote ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, Rachel Capron et Pierre Ruet, bonsoir. Rebonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup donc d'être avec nous. Rachel Capron, vous êtes élue de l'opposition au conseil municipal de la ville d'Angers. Et Pierre Ruet, vous êtes membre du Collège citoyen. Peut-être qu'on peut commencer par ça. C'est quoi Demain Angers et c'est quoi le Collège citoyen ?
Bah, je peux commencer sur Demain Angers. Alors Demain Angers, ce sont 11 organisations puisque le Parti communiste nous a rejoint la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire l'essentiel de la gauche à Angers, des organisations citoyennes, des partis politiques, des organisations citoyennes. Et l'association est constituée pour son conseil d'administration de 3 entités. Le Collège des élus d'opposition actuelle, les 11 organisations, et puis la troisième partie de ce conseil d'administration est constituée de citoyens qui ont été volontaires pour participer à ce collège et qui ont été tirés au sort, et Pierre en fait partie.
Tirés au sort parmi qui ?
Parmi tous les citoyens qui ont souhaité participer au conseil d'administration.
Et donc vous, Monsieur Ruet, vous êtes membre de ce collège citoyen. C'est quoi votre rôle concrètement au collège citoyen ?
Tout à fait. Donc ce collège citoyen-là, donc c'est une part du conseil d'administration. Donc on a le même, poids que les élus et les représentants des partis et associations dans l'organe décisionnaire en fait de Demain Angers. Le but, c'est de montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10-15 ans d'expérience en politique ou dans des mouvements associatifs pour prendre des décisions sur l'avenir de la ville. Et c'est vraiment une ouverture inédite dans un fonctionnement d'un mouvement politique.
Comment c'est né Demain Angers, Madame Capron ?
Alors, Demain Angers, c'est né, je dirais, de deux volontés. Déjà, un constat. En 2020, la gauche est partie divisée. On a regardé que les programmes proposés par les différentes listes de gauche, et notamment la liste dite écologiste et puis la liste portée par Aimé Angers, et on s'est aperçu qu'en fait les programmes ils étaient quasi identiques. Et on a trouvé que c'était vraiment dommage d'avoir proposé aux électeurs, et les électeurs d'ailleurs, les Angevins et les Angevines nous ont fait remonter ça. Ils ont trouvé que cette division était vraiment absurde et dommage. Et donc,
les électeurs de gauche partagent d'ailleurs ce constat au niveau national. Hein.
Bien sûr, oui.
Électrices de gauche aussi.
En tout cas, localement, on s'est dit qu'on n'allait pas reproduire cette erreur et que pour 2026, on allait le plus tôt possible construire une union. Et parallèlement, à l'issue de ces élections de 2020, il y avait trois groupes dans le groupe d'opposition à la ville d'Angers qui ont considéré que cette absurdité, elle était aussi à résoudre au sein du conseil municipal. Et par conséquent, les élus ont décidé de ne former qu'un seul groupe et qui maintenant a été baptisé Demain Angers. Et c'est donc ces deux volontés, ces deux dynamiques qui ont été à l'origine de la création de l'association Demain Angers.
Pourquoi est-ce qu'une primaire était indispensable pour choisir la tête de liste de qui portera cet engagement au municipal de 2026 ?
Bien, dans la logique de ce que je viens de vous expliquer, en fait, le programme, on est tous à peu près d'accord sur les grands axes. Alors, on va maintenant y travailler plus en détail et plus précisément, parce que depuis 2020, il y a évidemment des nouveaux paramètres à prendre en compte. Mais on s'est aperçu qu'en fait, ce qui avait créé la division, c'était les questions de leadership, de tête d'affiche, je dirais, d'une certaine manière. Donc, on veut évacuer ça le plus rapidement possible, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est aussi parce que l'élection municipale, c'est une élection qui est très incarnée. Les Angevines et les Angevins qu'on croise sur le terrain, parce qu'on est beaucoup sur le terrain, une des premières questions qu'ils nous posent, c'est qui sera le candidat ou la candidate de gauche face à Christophe Béchu. Et pour permettre à notre liste d'être incarnée le plus rapidement possible et pouvoir répondre à cette question que se posent les Angevins, on a opté pour le principe de la primaire.
Alors la primaire, on va revenir sur le mode de scrutin, mais d'abord juste questionnons même le principe de primaire. Est-ce que cette primaire vaut le coup alors que la France insoumise a décidé de faire cavalier seul et on sait ce que représente la France insoumise dans le paysage politique de gauche?
Ouais, alors plutôt que de parler de ceux qui ne sont pas encore à
Demain
Angers,
c'est la question que je vous pose. Vous êtes côte à côte sur les marchés. Oui. On parle d'union de la gauche. Vous êtes côte à côte sur les marchés. On me donne deux tracts. Les programmes sont pour certains. Eux me disent inexistants. Vous nous dites en construction. Enfin, n'empêche encore une fois la gauche divisée.
Il y a pas de fatalité. On est encore très loin de l'élection. Moi, je crois que une union la plus large possible est toujours possible. Aujourd'hui, on est 11 partis, organisations, plus honnêtement une belle dynamique avec des gens qui ne faisaient pas forcément de la politique avant, qui vont s'engager dans un processus de primaire et de création de projets. Tout le monde peut y participer. Ça commence ce samedi-là. Moi, je pense que ça va créer vraiment un élan populaire qui va nous amener de toute façon à se rendre compte qu'il y aura qu'une liste unie à gauche.
Donc ça veut dire que la tête de liste choisie à l'occasion de cette primaire de la gauche va négocier avec la France insoumise?
Ça appartiendra au collectif d'en décider.
Alors, je précise une chose. La tête de liste, dans la charte qu'elle a signée, enfin, quand les cinq candidats et candidates ont signé une charte qui les engage à travailler collectivement. C'est-à-dire que la question que vous posez, elle ne se pose pas pour la tête de liste, elle se pose pour tout Demain Angers.
Alors, je repose la question, est-ce que Demain Angers va négocier avec la France Insoumise une fois la primaire passée?
Alors, pour ne rien vous cacher, la France Insoumise était dans les négociations et dans toutes les réunions au tout début de Demain Angers. C'est la France Insoumise qui a fait le choix de quitter le collectif. Après, là, on peut pas, on n'est pas Madame Irma, hein, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On va voir aussi comment les choses évoluent au niveau national, parce que vous le savez, certains partis, notamment la France Insoumise, prennent leurs consignes aussi du national. Donc on ne va pas parler à la place de la France Insoumise. Nous, en tout cas...
Vous l'espérez, vous?
Oui, honnêtement, si on veut créer un projet qui soit ambitieux, structurant pour la ville, innovant, de toute façon, il va falloir rassembler le plus de compétences possible. Les compétences, elles sont à Demain Angers, elles sont à l'extérieur de Demain Angers, à la France Insoumise comme ailleurs. Donc, il va falloir travailler là-dessus. On va pas avoir le choix. Après, peut-être que ça n'aboutira pas. Tout à l'heure, dans la chronique, on a parlé d'utopie. Pour l'instant, peut-être qu'on y gagner encore, mais on va continuer à travailler.
Et de notre côté, on tient à porter une parole collective. Et comme vous l'avez compris, toutes les décisions, toutes les options seront décidées collectivement. Donc nous, notre opinion à titre personnel, je dirais que...
Non, je ne vous pose pas la question à titre personnel, c'est voilà. Au titre donc, de manger.
Donc à titre personnel, donc ça n'a aucun intérêt qu'on réponde. Et
tout à
titre, et pour leur répondre à votre question, on ne peut pas parler au nom du collectif, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas arbitré.
Bon, on parle d'utopie. C'est vrai que le mode de scrutin que vous avez choisi permet aussi d'aller toucher du doigt quelque chose d'un peu utopique dans le fonctionnement de nos démocraties, puisque c'est un mode de scrutin un peu particulier. Peut-être que vous pouvez nous en toucher deux mots.
Eh bien, nous avons fait le choix de nous faire accompagner par une association qui s'appelle Mieux Voter, qui est une association qui porte l'idée d'un renouveau démocratique grâce à un nouveau mode de scrutin, enfin nouveau, qui n'est pas si nouveau d'ailleurs, mais un mode de scrutin qui est complètement différent du vote uninominal habituel, c'est le jugement majoritaire. Alors l'intérêt de cette démarche, c'est d'une part qu'on est encadré par une association neutre qui garantit la fiabilité des résultats. Et puis d'autre part, ça propose aux électrices et aux électeurs une nouvelle façon de choisir, de voter, qui nous a semblé particulièrement intéressante parce que plus démocratique, plus ouverte, qui permet de ne pas se cantonner au vote utile, qui est malheureusement depuis plusieurs années le vote pratiqué en France et qui fait d'ailleurs que l'abstention est en train d'exploser à chaque échéance électorale.
Pardon, j'allume mon micro. Donc la particularité de ce mode de scrutin, c'est qu'on ne va pas voter pour un candidat, c'est qu'on va classer les candidats par ordre de préférence.
Non.
Alors dites-moi.
Alors, on ne les classe pas, on leur donne une mention.
On leur donne une mention, voilà, oui. Ouais. C'est vrai qu'on peut leur donner la même mention.
Voilà, c'est la différence du classement.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. C'est que ça évite le classement, de pouvoir donner la même mention.
Exactement.
Et ça va de excellent, très bien, à...
insuffisant.
Insuffisant. En sachant que de ne pas voter pour un candidat revient à le qualifier d'insuffisant.
Oui.
Ou une candidate.
C'est ça. Et donc l'intérêt, si vous voulez, c'est que quand vous avez deux candidats qui vous semblent pertinents, ou quand il y a un candidat... Dans le vote classique, vous avez candidat A, B, C. Le candidat A, c'est votre préféré, mais le B a plus de chances de gagner. Vous votez utile pour être sûr. Voilà. Là, on n'a pas cette problématique-là. On peut voter comme on choisit. S'il y a deux candidats qui nous plaisent, on peut leur mettre excellent aux deux. Tout est possible.
Et pourquoi avoir choisi ce mode de scrutin pour une primaire où finalement on ne connaît que très peu les candidats? Enfin, on va juger sur quoi vont se baser les électeurs pour les qualifier d'excellents ou d'insuffisants?
Alors,
les électrices.
Déjà, si on veut mieux les connaître, il y a un prochain rendez-vous qui a lieu demain soir aux salles du Doyenné pour rencontrer justement les candidats, qui sera un exercice de débat assez intéressant.
Ils vont débattre alors à cette occasion-là ?
Ils vont débattre, répondre à des questions posées par l'auditoire.
Est-ce qu'ils ont vraiment des points de vue différents ?
Alors justement, l'intérêt de la démarche qu'on est en train de construire, et comme le disait Rachel tout à l'heure, ça va être celle de l'incarnation. Donc c'est pas une question d'idées politiques, puisque le projet est commun, il est construit par tout le monde, et donc ça va être un jugement sur leur expérience, leur capacité à fédérer un collectif, à construire dans la durée quelque chose de pérenne, et donc c'est sur ça qu'on va les interroger, demain. Vous pouvez venir, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, salle du Doyenné, 19h.
Dans tous les cas, le programme défendu sera le même ?
Oui.
Exactement.
Expliquez-moi.
Le programme, on est en train de le construire. Il y a plusieurs groupes thématiques de travail. On va interroger notamment les gens sur leur lieu de vie, les marchés, d'autres choses. On se base aussi sur l'expérience des élus, celle des partis politiques, celle des mouvements citoyens, pour travailler sur un programme commun. Et le candidat qui sera choisi samedi, lui, s'est engagé en candidatant à la primaire comme tête de liste à soutenir ce projet commun qui va déboucher. On a déjà 5 mesures qui ont été annoncées. Vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment.
Fait, ouais. On ne va pas détailler maintenant. Pour des questions d'équité dans lesquelles je n'ai pas envie d'aller. Mais déjà, on parle de ce nouveau mode de scrutin. Est-ce que ce mode de scrutin qui est donc donné une appréciation à chacun et chacune des candidats-candidates, c'est un mode de scrutin qui est duplicable au niveau national?
Bien, vous le savez, mais sans doute, l'association Mieux Voter avait accompagné la primaire populaire de 2022.
Voilà, qui avait eu connu pour gagnante Christiane Taubira.
Exactement. Et donc, ça a été utilisé au niveau national. Je crois qu'il y avait près de 500 000 votants qui avaient participé à cette consultation, d'une certaine manière, ce vote. Et en fait, dans l'organisation de notre primaire, on a aussi envie d'être une sorte de laboratoire. Donc, avec ce mode de scrutin innovant, il y a une autre particularité, c'est que toutes les Angevines et les Angevins, quelle que soit leur nationalité, à partir de 16 ans, ont le droit de participer à ce vote. Parce qu'on considère qu'ils ont leur mot à dire sur ce qu'ils vivent dans notre ville. Et là aussi, on a une forme de consultation innovante parce que c'est un peu dans l'ADN de notre collectif.
Oui, c'est ça. La seule condition pour pouvoir voter à cette primaire, c'est d'habiter Angers et d'avoir plus de 16 ans.
Exactement.
Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui devraient pouvoir aussi exister au niveau local, en tout cas de permettre le vote des 16 ans, peut-être aux résidents sans forcément qu'ils soient français?
Ça fait partie des... En fait, nous, on a une aspiration à un renouveau démocratique, à demain Angers. Hein, donc, c'est pour ça qu'on teste des choses. Et ça fait justement partie des sujets qui sont discutés au sein des groupes de travail. Il y en a un sur la citoyenneté. Et donc, peut-être que ce sera dans le projet pour de prochains scrutins, que ce soit peut-être aussi des consultations ponctuelles. Enfin, tout ça, c'est... encore en train d'être construit. C'est pour ça qu'on lance la dynamique aussi. Je me souviens pas, moi, depuis que je suis arrivé à Angers, avoir un mouvement politique avec autant d'adhérents si loin d'une élection et autant de gens mobilisés sur le terrain ou autant de gens qui réfléchissent à ces sujets programmatiques. Donc, je trouve ça hyper stimulant.
Quand est-ce qu'on va pouvoir voir une ligne de programme se dessiner un peu au-delà de ces 5 mesures présentées sur vos réseaux sociaux?
On n'a pas encore fixé un calendrier avec une deadline, mais on a quand même des groupes de travail, Pierre en parlait tout à l'heure, qui ont commencé à se réunir, qui ont commencé à travailler ensemble. Et à la rentrée, là, on est un petit peu le nez dans le guidon de l'organisation de cette primaire, hein, parce que ce n'est pas simple à organiser, mais on y arrive très bien. Mais à la rentrée, les groupes de travail vont accélérer leur rythme. Et je pense qu'à l'automne, on pourra avoir un programme complet à présenter aux Angevines et aux Angevins.
Mais c'est ça qui est particulier. C'est qu'en même temps, pour donner du poids à cette primaire, il faut qu'un maximum de personnes participent. Vous visez, je crois, à peu près 1000 personnes. Hein. Je crois que c'est les chiffres qui sont annoncés. C'est pas sûr que vous les atteigniez. On verra. J'espère pour vous que vous allez les atteindre. Cependant, comment inciter du monde à participer à ce vote si jamais le programme n'est pas déjà clairement établi? Alors, j'entends bien qu'il n'y a pas un caractère engageant à voter pour le candidat issu de Demain Angers lors des élections municipales. Cependant, là, c'est un peu dans le vent, si je puis me permettre. Pourquoi on vote pour cette primaire?
Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, hein, c'est parce que sur le programme... Concrètement, pour avoir travaillé en amont, on s'est aperçu que sur les grandes lignes, on va avoir globalement un accord sur 99% des mesures qui seront peu ou prou des mesures qui ont déjà été présentées en 2020 et qui vont avoir été adaptées en 2025. Après, dans le détail, il nous faut du temps pour peaufiner ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'incarnation, c'est vraiment une urgence aussi et une demande.
Très bien. Donc là, cette primaire, c'est l'occasion de choisir l'incarnation de cette liste d'Union de la gauche. C'est très intéressant. La primaire, c'est le 28 juin.
Oui.
Le bureau de vote, c'est rue Bressigny.
Oui.
On peut venir sans être inscrit.
Oui.
On peut s'inscrire sur place. Pour voter, ça coûte 1 euro pour devenir adhérent à Demain Angers. Très pratique pour les stats. Est-ce qu'il y a d'autres informations à savoir complémentaires? Par exemple, si je ne suis pas disponible pour me rendre au bureau de vote, mais que j'ai quand même envie de voter, est-ce qu'il y a un vote électronique en ligne? Est-ce que les procurations, comment ça se passe?
Alors, pas de procuration, puisque tout peut se faire en ligne. C'est-à-dire que là, si vous ne pouvez pas vous déplacer rue Bressigny samedi 28, vous pouvez vous inscrire. Donc, vous allez sur demainangers.fr. Vous avez la possibilité donc d'adhérer à Demain Angers et par la suite donc de demander un lien qui vous permettra de voter à distance le 28. il vous faudra juste...
Et on ne peut pas se réveiller le 28 en disant « je veux voter à distance ».
Ah non, à distance, il faut se réveiller avant jeudi 18h.
Très bien, le message est passé sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci beaucoup Rachel Capron et Pierre Ruet d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de campus. Je vous propose de rester encore 1 minute 25 avec nous, le temps d'écouter une petite douceur de fin de journée. On va écouter une magnifique création sonore réalisée par des enfants en grande section CP de l'école du Latin à Breil. C'est un atelier animé par Marion, chargée d'atelier radio à Radio Campus Angers. Je vous propose qu'on écoute ça.
Je range mes affaires dans ma commode.
Je monte dans une montgolfière.
Le crâne pique la montgolfière.
La montgolfière tombe sur un serpent.
Bouf.
Le vélo va vite chercher de l'aide.
Ding ding.
Le vélo tombe sur le fauteuil.
Le canapé tombe sur la télé.
La télé appelle l'échelle.
À l'aide!
L'échelle tombe et l'arrosoir va arroser la télé.
Le marteau a cassé l'arrosoir parce qu'il était en colère et puis il était jaloux.
En fait, l'éléphant il protège l'arrosoir parce que le marteau il veut taper l'arrosoir.
Je saute en parachute pour aller chercher ma grenouille.
Quoi? Quoi?
Avant de prendre la grenouille, je mets mes gants pour prendre la grenouille.
En fait, le cerf, il a réparé tous les dégâts de l'histoire parce qu'il y en avait plein.
Bon, voilà, un petit bonbon sonore, histoire de se laisser, ça vous a plu?
Très sympa. Le marteau est très méchant.
Le marteau est très méchant, oui.
C'est très inventif.
Oui, c'est très inventif. Ils ont travaillé à partir de photos et d'images pour... voilà, ils ont associé, ça a donné une sorte de fiction poétique. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est très mignon.
Super.
Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et le pédalo, lui, termine sa traversée sur les ondes de campus. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Demain, on vous présentera la programmation d'un festival que vous connaissez bien et que vous aimez bien. C'est le festival Au Fond de la Rue. D'ailleurs, courez vite sur nos réseaux sociaux pour gagner vos places. En attendant, la programmation continue sur le 103 FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.